IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Avec nous également Margot, en stage chez IDFM. Bonjour Margot. Merci pour votre fidélité à notre média et nos émissions et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, l'émission qui décrypte les enjeux économiques à travers le prisme de ceux qui les vivent et les transforment. Si notre première émission a posé les bases d'un dialogue économique ancré dans le territoire, aujourd'hui nous plaçons résolument le curseur sur l'audace entrepreneuriale sur ce territoire. Cette audace qui pousse des femmes et des hommes à innover, se relever et à transformer les défis en opportunités. Aujourd'hui, vendredi 9 janvier 2026, pour cette deuxième émission, nous allons donc explorer ce thème à travers des témoignages concrets, des initiatives locales et le rôle des banques indispensables pour financer l'économie. Avec moi dans le studio, des entrepreneurs qui incarnent cette audace au quotidien, ainsi qu'un expert pour décrypter les leviers qui font la différence. Bonjour Guillaume Delay, directeur général Capsure, gestion de patrimoine courtier, co-manager du Paris Vexin Business Club.
Bonjour Jacqueline.
À vos côtés, Alexandre Delamarzelle, directeur du centre d'affaires PME du Val d'Oise BNP Paribas. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jacqueline.
Et nous attendons Axel Duchemann, consultant en marketing, cofondateur du Paris Vexin Business Club, ancien brasseur, qui ne devrait pas tarder à arriver. Bienvenue à tous les trois malgré tout et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
L'économie en direct, c'est aussi des chroniques géopolitiques et on peut dire que ce début d'année est riche dans ce domaine. Aussi, avant de vous donner la parole, nous allons retrouver via le téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vaspierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline. Je salue naturellement vos invités et bien sûr toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
Merci. Merci de penser à nos auditrices, Gérard. Alors Gérard, toutes les grandes chaînes, France Info, CNews, Europe 1 et bien sûr IDFM Radio font appel à vous en ce moment, tant l'actualité internationale est dense. Et avec vous, ce matin, nous allons nous envoler plus particulièrement vers Caracas. Alors, le titre de votre rubrique, Décryptons le monde, vous avez choisi ce matin « Intervention américaine au Venezuela, succès ou fiasco ?» La plupart des observateurs ont commenté cette incroyable opération en étant impressionnés par la grande maîtrise dont l'armée américaine a fait preuve dans tous les domaines. Peu ou peut-être aucun analyste n'est allé jusqu'à évoquer un fiasco. Et compte tenu de vos précédentes interventions, moi je brûle de vous entendre. Alors déjà, pourquoi une telle opération a-t-elle été préparée ?
Je crois, Jacqueline, qu'il est nécessaire de faire référence à deux échelles de temps, l'une étant graduée en dizaines d'années, l'autre en années seulement. Avant que le Venezuela soit dirigé par Nicolas Maduro, le régime politique actuel du pays a été mis en place par son prédécesseur Hugo Chavez, élu président en 1998. Il s'est réclamé d'un socialisme du 21e siècle, teinté d'anti-impérialisme, donc d'une position anti-américaine. Il s'est fortement rapproché de Moscou et a fait créer de fait une position antagoniste américaine à l'égard du Venezuela. À son décès, en 2013, son successeur, Nicolas Maduro, qui a suivi de longues formations à Cuba, a accentué cette fracture politique. Durant le premier mandat de Donald Trump en 2019, Juan Guaido, principal opposant, a tenté un coup d'État encouragé par Washington. Il n'a pas réussi à entraîner avec lui les principaux gradés de l'armée. Ce que nous avons vu le 3 janvier n'est donc pas la première tentative américaine de changer le cap politique du Venezuela. Le projet de renverser directement Maduro est né ces dernières années, ce que j'ai appelé la deuxième échelle de temps, et a été finalisé avec le retour de Donald Trump au pouvoir. L'enclenchement de l'opération a eu lieu cet été. L'amiral couvrant cette région militaire, opposé à cette stratégie, a demandé une retraite anticipée à l'été.
Oui, le pétrole semble aussi jouer un rôle particulier hein, dans la relation entre le Venezuela et les États-Unis. Que pouvez-vous nous en dire ?
Alors, la société nationale PDVSA, Petroleos de Venezuela, a servi de cadre à la nationalisation du pétrole en 1976. Le pays a bâti une entreprise reconnue mondialement pour ses compétences, produisant jusqu'à 3,5 millions de barils par jour en 97, avec les États-Unis comme principal client. Mais Chavez, à son arrivée en 1999, a fait rentrer dans l'entreprise beaucoup de cadres de l'armée dont il était issu. Incompétence et corruption ont envahi la société. Une grève en 2003 a abouti au licenciement de 19 000 personnes. Le déclin était inévitable. Maduro n'a pas inversé cette tendance. Les sanctions américaines ont fait baisser la production à moins d'un million de barils par jour, soit moins de 1% de la production mondiale. Les compagnies américaines, dans cette période, ont donc perdu leurs investissements.
Merci Gérard pour ces précisions qui retracent l'histoire des relations pétrolières. Nous avons tous vu la réussite de l'opération militaire et le début des étapes judiciaires contre Nicolas Maduro. Pourquoi y voir alors la possibilité d'un fiasco ?
Nous avons vu ensemble que le renversement du système politique vénézuélien était depuis des années l'objectif principal de la politique américaine en Amérique du Sud. Les premières déclarations de Donald Trump semblaient indiquer que nous allions assister à un basculement politique. Mais depuis la prise de serment de la vice-présidente Delcy Rodriguez devant le Parlement, elle est devenue présidente par intérim. Cela confirme de fait et de droit Nicolas Maduro comme président en titre. Elle s'aligne donc sur sa défense, centrée sur son immunité juridique présidentielle. Si le pouvoir politique avait basculé à Caracas, cela représentait une victoire politique pour Washington et une nouvelle défaite pour Moscou après la Syrie. Mais le maintien au pouvoir à Caracas du personnel politique et de l'armée constituerait une résistance réussie pour Moscou, voire une victoire. L'arraisonnement d'un pétrolier russe par les gardes-côtes américains ce mercredi au large de l'Islande élargit la crise et la complexifie.
Mais Donald Trump n'a-t-il pas annoncé que le Venezuela allait remettre aux États-Unis 30 à 50 millions de barils de pétrole et qu'il en contrôlerait personnellement les revenus ?
Oui, j'ai bien entendu le chiffre, Jacqueline, mais j'ai aussi entendu le mot « déclaration ». La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a répondu « Le gouvernement du Venezuela dirige notre pays, personne d'autre ». Nous sommes donc dans un échange de déclarations et non dans les réalités. Donald Trump a déclaré que le gouvernement vénézuélien avait tout intérêt à suivre les orientations de Washington. Nous n'en voyons aucun résultat. Quand vous citez un tel chiffre, 30-50 millions de barils de pétrole, vous indiquez au moins en combien de temps ? En un an ? En 10 ans ? Cela manque de crédibilité. En choisissant le chiffre d'un an seulement, cela correspond à un niveau de 100 000 barils par jour, c'est-à-dire 10% seulement de la production actuelle vénézuélienne. Vous ne pouvez pas modifier radicalement l'économie du pays en augmentant sa production de 10%. Autre regard, 100 000 barils par jour, cela représente moins de 1/1000 de la production mondiale. Gain ridicule pour les entreprises pétrolières américaines. Voyez-vous, nous sommes loin, très loin du succès militaire. Je crains qu'en ajoutant le Groenland, les États-Unis se lancent dans une course sans résultat autre que le désordre. Les électeurs américains sont satisfaits à 35% seulement de la situation économique américaine. Ce paramètre fera le résultat des élections du mois de novembre. Au jour d'aujourd'hui, Donald Trump se dirige vers une défaite cuisante. Il avait perdu le pouvoir en 4 ans. Il risque de se retrouver paralysé en 2 années seulement. Le fiasco risque de dépasser le Venezuela.
Merci Gérard pour cette analyse chiffrée, structurée. Nul doute que l'année 2026 débute avec plein d'incertitudes. J'ai déjà hâte d'entendre votre prochaine chronique. Nous terminons ainsi votre chronique géopolitique Décryptons le monde. Retrouvez tous vos écrits et interventions sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. Merci Gérard, à bientôt pour d'autres panoramas internationaux.
Merci, au revoir Jacqueline.
Merci, au revoir. Et on marque une pause avant de donner la parole à mes invités.
De ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire belle demoiselle. Presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est non. Ça se bouscule dans ma tête, l'épée a l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu. La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
À Après cette pause avec Christophe Maé et son titre « Belle demoiselle », nous retrouvons mes invités d'aujourd'hui, vendredi 9 janvier. Axel Duchemann, consultant marketing, cofondateur du Paris Vexin Business Club, ancien brasseur. Bonjour Axel.
Bonjour Jacqueline.
C'était compliqué pour venir ce matin.
Oui, c'était un peu compliqué, la route est toujours un peu chargée.
Bon, mais vous êtes là, c'est le principal. Guillaume Delay, directeur général Capsule, gestion de patrimoine courtier, co-manager du Paris Vexin Business Club, et Alexandre de Lamarzel, directeur du centre d'affaires PME du Val d'Oise, BNP Paribas. On enchaîne avec vous, Axel Duchemann. Allez, c'est le baptême du feu ce matin. Donc, Guillaume Delay, bien sûr. Pour votre création du Paris Vexin Business Club, dont vous êtes deux des trois cofondateurs, hein, puisqu'il y a Clara également, Clara Wheeler.
Absolument.
Un réseau qui incarne l'alliance entre collaboration et innovation. Et ensemble, on va explorer votre vision, vos défis, et puis les leviers qu'il faut activer pour dynamiser notre territoire. Alors, Axel... Même si vous êtes déjà venu dans l'émission, peut-être un rappel, un rapide rappel de votre parcours.
Avec plaisir, oui. Donc actuellement, moi, je fais principalement du consulting en marketing, en freelance. Alors soit seul, soit associé avec Clara Wheeler, qui est à la fois cofondatrice également du PVBC, mais également ma compagne dans la vie et avec laquelle je travaille depuis pas mal de temps. Donc on travaille pour différents types de clients qui ont des besoins spécifiques, soit en marketing, soit en développement commercial. Et généralement, ça va être des typologies de clients qui ont pas les équipes en interne et qui ont besoin d'externaliser leurs forces ou tout simplement d'avoir un regard extérieur. Donc ça, c'est une activité vraiment intéressante parce que on a l'occasion de travailler sur des défis très différents en fonction des typologies des clients et des missions qu'on nous propose. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité qui nous amène ici, c'est le PVBC, donc le Paris Vexin Business Club, cofondé avec mon ami Guillaume Delay ici présent et la fameuse Clara. Où là on est sur un club d'affaires destiné aux chefs d'entreprise, destiné aux décideurs, mais je pense que je vais pas rentrer directement dans le
sujet,
détail
oui.
De l'activité, je vais laisser peut-être
Ben on va laisser Guillaume. Merci,
Guillaume,
merci
ouais,
Axel.
La parole, avec plaisir.
Oui, ben Guillaume, même pas somme, hein, votre trajectoire.
Alors, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la Bourse de Paris, à la CRIE à l'époque, donc je suis plus si jeune, sur les marchés dérivés, donc la grande époque où tout le monde achetait et vendait les petits bonshommes que vous pouvez voir à la télévision, qui courent dans tous les sens, qui lèvent la bras, qui crient, qui hurlent, etc. Et tout ça est très très organisé pourtant. Et puis j'ai poursuivi en société de gestion portefeuille, enfin des trucs qui font rêver, quoi, banque privée, etc. Et je me suis associé, je suis devenu indépendant il y a un peu plus de 6 mois maintenant, je me suis associé avec un camarade et ami qui a à peu près le même type de formation que moi, mais qui s'y connaît beaucoup mieux sur des sujets qui moi me passionnent pas, et qui me fait l'honneur de croire que je m'y connais mieux sur des sujets qui le passionnent pas, donc voilà, on s'entend très bien, et après, à plus de 55 ans, je suis devenu un jeune entrepreneur avec plein d'idées, plein d'envie, plein d'énergie et un grand plaisir de rentrer là-dedans. Voilà. Et entreprise qu'on a développée, comme disait Axel tout à l'heure, en créant et en fondant le Paris Vexin Business Club, qui est un autre type d'activité, mais tout aussi passionnant et très très ouvert sur le monde, sur le plaisir, sur l'envie, sur le lien, sur l'énergie qu'on peut essayer de développer. Enfin voilà, c'est un
Très bien. Merci Guillaume. Alors, oui, on a bien compris que le Paris Vexin Business Club était né d'une volonté commune, hein, de créer un espace d'échange et de collaboration entre entrepreneurs. Avant de donner plus avant la parole à Alexandre de Lamarzel, quel lien avez-vous avec Alexandre, Guillaume et Axel ?
Alors, Alexandre fait partie du Paris Vexin Business Club.
D'accord.
Et son prédécesseur était venu... s'inscrire pour prendre la place de la banque et de la banque d'affaires en particulier. Donc Alexandre a rejoint le Val d'Oise il y a quelques trois mois, voilà. Et on s'était dit que c'était peut-être une bonne idée de le faire lui plus connaître. C'est pas très français ce que je viens de dire. Le faire mieux se connaître.
Ça passe à la radio. Ça passe à la radio.
le faire mieux connaître parce que il est certainement dans une phase où il a besoin ou envie de rencontrer tout le monde. Et le Paris Vexin Business Club essaie de faire le job de ce côté-là. Et puis lui proposer d'intervenir à la radio aujourd'hui est peut-être une autre facette de ce qu'on souhaite faire, pourquoi pas, avec d'autres membres et d'autres intervenants. Donc voilà. Et le principe, et après je vais laisser la parole, le principe c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, on est toujours dans la démarche de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Voilà, sachant que c'est pas nous qui faisons son business, c'est lui là-dessus.
Bien sûr.
On n'y connaît rien et il nous en parlera tout à l'heure et bien mieux que ce qu'on pourrait faire nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à faire un pas de plus. Voilà, c'est un peu ça notre démarche. Est-ce que ça peut te rendre service qu'on mette en relation, parce que c'est principalement le rôle du Paris Vexin Business Club, indépendamment du côté plaisir, intervenant. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut essayer de t'apporter que tu pourrais avoir tout seul, mais tu mettrais probablement quelques semaines de plus à essayer d'y arriver. Donc là, est-ce qu'on peut te permettre d'accélérer cette petite chose-là. Donc voilà. Voilà le lien qui nous unit, indépendamment de la qualité de la relation excellente.
Merci Guillaume. Et puis ça nous donne l'occasion de recevoir BNP Paribas, ce qui n'est pas, je crois que c'est la première fois qu'on reçoit BNP Paribas chez IDFM Radio, donc une première.
Parfait.
Merci d'être là, Alexandre.
Merci à vous.
Alors, si je résume, Guillaume et Axel, le Paris Vexin Business Club, c'est plus qu'un simple réseau business.
Alors c'est plus qu'un simple réseau business. Le côté réseau business, c'est vraiment c'est l'objet naturel comme on met sur un cabis. Je fais du réseau et d'abord du club d'affaires. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un petit moment de détente et de plaisir et de business inévitablement. C'est sous-jacent le business, mais un petit moment de détente et de plaisir où un chef d'entreprise, un dirigeant vient en disant c'est à table, donc je vais bien manger, je vais être entouré de gens que je connais pas, plutôt sympas, plutôt agréables, qui ont des problématiques de métiers qui sont pas les miens, mais sur lesquels on peut avoir des problématiques vraiment tout à fait similaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour se parler, discuter, apprendre des choses, échanger, partager, et en plus, il y a toujours un intervenant qu'on essaye de choisir pour ses qualités, ses métiers, ses rôles. Enfin là, on reçoit la semaine prochaine Audrey Renard, qui est une jeune femme tout à fait agréable et sympathique. Et quand vous la croisez dans la rue, vous imaginez pas un seul instant ce qu'elle fait. Elle est responsable du pôle. Alors j'ai pas le terme.
Pôle judiciaire de la gendarmerie.
Voilà, en fait, c'est la psychologie comportementale.
Voilà, merci. En fait, c'est la responsable des profilers de la gendarmerie nationale en France. Donc, si vous voulez, le portrait psychologique et les axes psychologiques pour réussir à capturer Nordal de Landais, c'est son service.
C'est ça. Je crois qu'elle succède à Marie-Laure Brunel, qui a créé ce département au pôle judiciaire.
Voilà, tout à fait.
Elle s'est battue pour créer ce.
Elle en a pris la tête là au mois de septembre dernier. Et voilà. Et donc c'est quelqu'un. On se dit, elle a sûrement plein de choses passionnantes à nous raconter, plein de choses qu'elle ne peut pas dire. Et c'est en partie pour ça on lui avait proposé de venir. Elle dit, je suis un peu contraint par le devoir de réserve,
bien sûr,
qu'on peut comprendre, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas encore complètement finies. Donc voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Un moment de détente et de plaisir pendant une année, une journée, un mois dense, même si on travaille tous avec plaisir dans nos métiers, on a parfois quelques difficultés,
il y a des
tempéraments, des caractères, et là il y a un moment où on se retrouve. On a une petite particularité, je veux dire, à la différence d'autres réseaux business, on fait très attention à la qualité des membres. Alors les visiteurs peuvent venir tout le monde peut venir une fois regarder à quoi ça ressemble. Ça, c'est avec grand plaisir. Mais en revanche, les adhérents, les gens qui sont membres, ne sont pas membres sans que Clara, Axel et moi, séparément ou ensemble, on passe un vrai moment d'échange avec eux pour bien comprendre s'ils sont dans le bon état d'esprit. Et les bons états d'esprit, c'est on est là pour échanger. Mmh. Alors ça ne veut pas dire qu'on va échanger du business, qu'on va travailler avec eux directement, mais on est là pour se recommander, on est là pour échanger, on est là pour passer un bon moment. Il faut que tout le monde soit aligné sur cette logique-là.
Alors, merci Guillaume. Axel, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour un membre lorsqu'il passe, il pousse la porte du Paris Vexin Business Club?
Sa vie change du tout au tout, directement. peut-être un peu un.
Vous allez déborder d'adhésion.
Effectivement. Alors, ce qui se passe pour le membre, ça va dépendre des membres. Ce qui est commun à tout le monde, c'est qu'on va proposer un bon moment. Effectivement, comme Guillaume disait, des réseaux d'affaires ou autres, ça ne manque pas. Et
je crois qu'il y en a plus de 80 dans le Val-d'Oise.
Ouais, et particulièrement dans le Val-d'Oise, effectivement, on est particulièrement fourni là-dedans. On cherche pas à remplacer qui que ce soit. On cherche à proposer une expérience différente et qui va correspondre à en fonction des goûts et des profils de chacun. Nous, c'est vrai qu'on a une offre assez spécifique. On se retrouve une fois par mois. C'est des déjeuners et comme Guillaume disait, à chaque fois, on a un intervenant qui vient faire une présentation interview de manière en plus assez particulière, assez détendue. C'est dans l'échange, il y a pas de caméra, c'est pas du média, donc la parole est moins contrôlée on reçoit aussi des personnes qui sont un peu des têtes d'affiche. On a reçu Jérôme Kerviel il y a quelques mois, c'était un très bel événement effectivement de le rencontrer en vrai. On ne perçoit pas et on n'entend pas la même chose que ce qu'on peut voir dans les médias et qu'on lui parle directement. C'est quelque chose qui devient très humain au final et très surprenant. Donc pour un membre, déjà, ça va être une expérience agréable parce qu'il va être accueilli dans un joli lieu. On fait ça, on organise nos déjeuners au golf d'Ablège. Donc c'est juste après Cergy. On est très proche de la ville, mais on est déjà à la campagne. On est dans un super beau cadre. On va être accueilli par la belle équipe que nous formons avec Clara et Guillaume. Donc il y a vraiment au cœur de l'expérience une notion de plaisir. On est là pour passer un moment détendu. On va bien manger, on va boire un coup si on en a envie, et on va rencontrer des personnes intéressantes. On a nos visiteurs, comme disait Guillaume, chacun peut venir, mais au niveau des membres, vu qu'on a fait ces rencontres, vu qu'on a fait ces sélections, on sait qu'on est sur des gens qui sont là pour l'échange et pour l'échange humain. En gros, on n'est pas sur une population qui est là pour distribuer des cartes et essayer de faire des opérations en one shot et après on se parle plus. C'est vraiment pas l'esprit de ce club. Et justement, on essaye de créer une ambiance un peu club, un peu hors des relations professionnelles habituelles, mais plus confraternelles ou amicales. Alors effectivement, on va pas forcément tous s'inviter au mariage les uns des autres, mais voilà, il y a quand même des liens qui se créent, des gens qui se rencontrent au sein du club qui seraient pas forcément amenés à se rencontrer dans d'autres conditions, soit parce qu'ils ont des métiers très très différents qui à la base n'ont pas forcément de raison de se rencontrer. Alors ça n'arrive pas pour Alexandre, parce que globalement je pense que tous les chefs d'entreprise ont un banquier à un moment ou à un autre. Mais il y a des métiers bien plus spécifiques. Et
sans doute que Alexandre aimerait avoir tous les chefs d'entreprise comme client.
On devrait partager un peu comme ouais,
peut-être un pas tous
partage,
mais
un banquier partage.
Et ce qu'on essaye de faire aussi, et ce qui va nous différencier, c'est qu'on est dans une démarche où on va pas infantiliser. nos membres. On va pas leur demander de rendre des comptes. En gros, quand on vient au Paris Business Club, alors bien sûr la partie business, elle est là, elle est dans le nom et on l'assume. On est là pour faire des affaires. Si on peut développer son business à partir du club, on s'en cache pas et on en discute volontiers. Par contre, on n'a pas de reporting à faire chaque fois qu'on vient.
On n'a pas à
justifier du nombre de contrats qu'on a signés avec des membres du club. On n'est pas sur ce genre de fonctionnement.
C'est vraiment un moment convivial qui si l'opportunité le veut peuvent ensuite faire des affaires, mais voilà, ce n'est pas
absolument.
Le but c'est de passer un bon moment.
On se rend compte aussi que les que là où ça va être très intéressant, c'est si on a une vision un peu plus long terme, un peu plus stratégique. Les affaires vont pas forcément se faire directement avec les membres du club, mais avec leur deuxième cercle. On va rencontrer des gens qui sont impliqués dans des réseaux. Si on est membre d'un club comme le Paris Vexin Business Club, c'est qu'on a une sensibilité et une appétence, ou au moins on a compris l'intérêt que ça avait de rejoindre un réseau professionnel et de sortir de l'isolement du chef d'entreprise qui nous guette tous. Et donc on est déjà probablement quelqu'un qui a un réseau intéressant de fournisseurs, de clients ou d'amis ou de familles qui eux peuvent avoir des besoins, et là on va avoir des mises en relation très qualifiées et de confiance, et c'est là que ça va commencer à devenir très très intéressant.
Et c'est là où on va dire il se passe vraiment quelque chose.
Juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume. Axel, la confiance, c'est vraiment ce qu'on essaye de créer, la confiance entre les membres. Je pense que j'apprends rien à personne si je dis qu'entre deux fournisseurs ou deux clients, deux fournisseurs et qui ont la même offre, on va plutôt aller vers celui en qui on a confiance. Et encore plus aujourd'hui où toutes les activités qui coûtent du temps, c'est tout ce qui est le traitement, le back-office, etc. Et quand on a un interlocuteur en qui on a confiance, qui lui dit « mais je vais m'occuper du problème, tu peux me faire confiance » et que c'est une personne dont on sait que c'est vrai parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois, parce qu'on l'a challengé, parce qu'on a bu un verre ensemble, parce qu'on a discuté, etc., etc. C'est quelque chose qui peut renforcer les liens professionnels derrière. Je n'apprends rien à personne si je dis que pour confiance dans son banquier, c'est aussi la même chose. On peut avoir des offres un peu meilleures ailleurs, et moi je le vois dans mon activité. On peut avoir des fournisseurs de produits financiers qui sont extraordinaires, qui font des offres absolument incroyables. Sauf que moi, si ça me prend 15 jours pour traiter un dossier, ça me fait perdre de l'argent et ça me fait perdre à mon client. Donc je préfère aller vers une offre peut-être un peu moins disante, mais où je sais que ça va tourner, que ça va avancer, etc. Et en fait, ce qu'on cherche vraiment à créer, c'est ce lien de confiance entre les membres. Il s'avère que pour des raisons surprenantes, on en a déjà testé. Enfin, c'est pas le bon mot. On a déjà utilisé les compétences des uns et des autres, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, soit dans le cadre du club. Et c'est pas parce que c'était nous qu'ils ont été particulièrement compétents, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient naturellement compétents et qu'on pouvait vraiment s'appuyer dessus.
Et ça,
c'est quelque chose de très important, et je pense dans le domaine de la banque, quelque chose de primordial aussi.
De particulier. Vous avez raison de souligner ce facteur, confiance, puisqu'on va naturellement, vous l'avez dit, vers les gens que l'on connaît. Après, il ne faut pas avoir en tête qu'on va réaliser tout son chiffre d'affaires grâce à des réseaux comme ça. Il faut rester prudent.
Absolument, rien n'empêche de continuer à travailler naturellement.
C'est ça,
oui,
voilà.
Bien d'accord. Non, ça ne fait pas tout.
En vous écoutant, j'ai vu Alexandre opiner de la tête. Vous êtes complètement en phase avec ce que disent Axel et Guillaume.
Je suis tout à fait raccord. Je peux juste peut-être témoigner comme jeune membre de ce club. Ça fait 3 mois que j'y suis. Peut-être juste illustrer le propos qui vient d'être dit, mais de façon concrète. Moi, j'ai participé à deux déjeuners. Vraiment des super moments, je peux en témoigner. L'un, j'étais à la table de Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du URED.
Oui.
J'ai adoré.
Que j'ai pu interviewer.
Voilà, encouragement à la prise de risque. En même temps, en maîtrisant, en s'entraînant avant d'aller au combat. Voilà, vraiment des choses passionnantes. Et franchement, j'avais jamais rencontré cet homme. Et voilà, donc très très sympa d'avoir ce déjeuner. J'ai ensuite fait un autre déjeuner où j'ai rencontré Pierre Cuchely.
Notre fameux Pierre.
Mais je l'avais déjà rencontré avant, mais là, je l'ai vu avec enthousiasme parler du dynamisme économique du Val d'Oise. Vraiment, vraiment super. Donc ça, c'est les deux expériences concrètes grâce au club. Et puis après, les deux, je peux témoigner de deux rebonds, juste pour illustrer le propos de parfois il y a une vie après le club. Un premier rebond, c'est aujourd'hui. Moi, voilà, le fait de participer dans ce club, ça me donne l'occasion de parler de mon métier à la radio. Et je remercie pour ça. C'est une opportunité qui m'est donnée. Merci. Et puis un autre petit rebond, juste pour illustrer la mise en connexion. J'entends Pierre Cuichely en décembre nous parler d'un sujet qu'il a à cœur pour le Val d'Oise, qui est Agoralim, qui est le fait de créer l'équivalent de Rungis, mais dans le nord de Paris, on va dire. Il en parle avec passion. Donc voilà, moi, j'écoute Jean-Grand, j'entends le
banquier. On en parle depuis plusieurs années chez IDFM Radio, je peux vous dire.
En tout cas, moi, je découvrais, donc j'ai trouvé ça passionnant. Et il se trouve que dans nos clients, je vais jamais parler de mes clients de façon personnelle, parce que c'est confidentiel. J'ai pas à dire qui sont mes clients, mais il se trouve que j'ai un client, qui travaille dans le cartonnage et qui est le fournisseur principal de Rungis, en termes de, vous voyez, les petites barquettes en carton qui sont pliables, et puis on les déplie pour les maraîchers, pour les tomates. Voilà. Bon, et ben, j'ai appelé mon client, je lui ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a Agoralim qui serait? Je vous connecte avec Pierre Cuichely. On a une mise en connexion directe. Le client, il est hyper heureux.
Pierre Cuichely,
ça fait un rebond. C'est l'illustration concrète de comment est-ce que les rencontres qu'offrent un club à travers des bons moments, moi j'aime bien la bouffe, donc à travers un bon déjeuner, derrière ça peut générer une connexion et une suite.
Bon, vous avez là un super ambassadeur, Guillaume et Axel, avec Alexandre.
On a la chance d'avoir des membres qui sont tous des très bons ambassadeurs pour notre club.
Mais pour revenir à Agoralim, IDFM a eu l'honneur d'interviewer juste avant la genèse de ce projet Stéphane Layani, qui est le patron de Rungis. Et puis j'avais reçu à l'époque Pierre Cuichely, évidemment, et puis Daniel Fargeau, qui venait d'être, je ne sais plus s'il était déjà sénateur, mais il était, je ne sais plus, mais bon, il avait un rôle, c'était le politique du groupe. Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. Alors, peut-être qu'on va faire une pause, oui. Je me laisse embarquer par les interviews. Donc on fait une pause, on vous laisse profiter de quelques instants de musique avec Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. À tout de suite.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Duchemann, consultant en marketing, cofondateur du Paris Vexin Business Club, ancien brasseur, Guillaume Delay, directeur général Capsure, gestion de patrimoine courtier, co-manager du Paris Vexin Business Club et Alexandre de Lamarzel, directeur du centre d'affaires PME du Val d'Oise, BNP Paribas. Alors, on continue sur ce club, hein, Paris Vexin Business Club. Guillaume et Axel, votre prochain invité, c'est Audrey Renard. On en a parlé, du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. L'occasion pour moi de mettre peut-être en lumière le rôle des femmes dans l'économie, puisqu'elles représentent quand même 40% des créateurs d'entreprises en France, mais seulement 30% des dirigeants de PME. Et je voulais savoir si vous parmi vos invités, la parité est quand même maintenue, Axel et Guillaume.
Alors, on réfléchit pas sous cet angle-là, mais on est, nous, tous les trois, au Paravix Invisible Club, dans le 30%, dans le 33%.
Oui, puisque vous avez
on a Clara,
absolument.
Qui représente notre quota. Non, je plaisante.
Oui, un mot à éviter.
Oui, non, excusez-moi. Non, c'est une vraie plaisanterie.
Si vous voulez revenir.
Non, on fait pas le tri en disant il nous faut un homme, une femme.
Oui.
En revanche, on va voir des gens, on cherche des gens passionnants et des gens très intéressants. Et ça peut être un homme, ça peut être une femme. On avait reçu au mois de, je crois c'était au mois d'avril ou au mois de mai, Auriane Malo-Breton, qui est une épéiste vice-championne olympique à l'épée, qui est la marraine du club d'ailleurs. Et là, en effet, il s'avère que par un hasard tout à fait étonnant, je suis mis en relation avec Audrey Renard. Je ne savais pas bien ce qu'elle faisait. Moi, la psychologie est pas forcément mon fort. Donc on est allé la voir, on a discuté un petit peu avec elle. C'est une femme absolument passionnante, jeune mère de famille, qui est rentrée à la gendarmerie un peu par hasard, mais qui avait fait des études de psycho, qui s'est quand même bien orientée vers la criminologie. Donc ça veut dire que naturellement elle était attirée par cette activité. Je suis pas certain que ce soit parce que c'est une femme qu'elle y était active, parce qu'elle serait peut-être. Enfin, c'est pas ses qualités de femme qui ont fait qu'elle soit attirée par ça. Pour répondre à votre question, on a en cible d'intervenant, alors je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas verrouillé, une femme chef d'entreprise aussi, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle fait un truc absolument passionnant. Donc en fait, on cherche pas à avoir ce prisme-là, on est ni pour ni contre. Il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement intéressantes dans leurs activités, qui ont peut-être une approche plus un peu différente, encore que, enfin, je pour rebondir et je pense à Alexandre et ton assistante Nathalie.
Ouais, ma directrice commerciale.
Voilà, ta directrice commerciale, j'ai assistante.
La semaine prochaine. Ouais.
Voilà, donc
avec choix.
C'est ça. Vous avez pas ce prisme de parité, mais il n'empêche que c'est important de représenter suffisamment les femmes dans vos invitations d'honneur.
Alors c'est absolument indispensable parce que bon, déjà la bonne nouvelle c'est que de plus en plus elles sont présentes dans tous les métiers et dans toutes les activités. Donc ça c'est une très bonne chose et on en voit aussi dans le bâtiment. Enfin moi je pense à une femme qui a créé dans le nord de la France une entreprise de construction il y a petite quarantaine d'années on va dire. Et quand elle avait 23 ans, elle s'est lancée là-dedans. Et je vous prie de croire que, et dans le Nord, et dans la construction, c'était pas évident, hein, de construire des maisons et des bâtiments quand on est une jeune femme blonde, pimpante, etc.
Enfin, voilà. Oui, ce que je veux dire, c'est il y a des stéréotypes.
Il y a des stéréotypes, et de plus en plus, les stéréotypes sont un peu détruits, et c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que, sans aller chercher jusqu'à équilibrer, si pour une raison XY, on a trois fois de suite des femmes intervenantes, ça nous va aussi. On est dans une logique, on cherche pas à les inclure absolument. On cherche à ne pas forcément exclure d'hommes, en fait. C'est pas parce que
on en arrive à ce point. Ok, très bien, merci infiniment, Guillaume, en tout cas. Alors,
je peux juste faire un petit rebond là-dessus, sur l'émancipation, Alexandre, des femmes, parce que c'est le sujet qu'on évoque là. Juste pour dire que ça peut se nicher même dans l'univers bancaire, ce sujet-là.
Mais j'ai une question pour vous, Alexandre, ouais, à ce sujet, mais allez-y.
Je voulais juste mentionner le fait que en juillet dernier, en juillet 2025, BNP Paribas, on a vraiment, célébré les 60 ans d'une loi en France. Moi, quand j'ai appris qu'on fêtait les 60 ans de cette loi-là, j'étais sidéré. C'est les 60 ans de la loi en France qui a autorisé les femmes à ouvrir un compte en banque en France sans l'autorisation de son mari. C'est 1965. Donc, enfin, ça paraît à la fois loin et en même temps, c'est tout près. Voilà. Et donc, on a évidemment célébré, nous, de façon très, très accentuée, cet anniversaire. Et ça nous a permis de nous poser la question, comment continuer en 2025 d'être à la pointe sur ce type de sujet. Et on s'est rendu compte qu'en 2025, ça passait par des choses beaucoup plus subtiles, qui étaient, en fait, les violences faites aux femmes dans l'univers financier, au sens où elles n'ont pas toujours, encore en 2025, la main sur le compte en banque, et elles n'ont pas forcément une autonomie financière. Et que ça, c'est un combat encore d'aujourd'hui, et que, en l'occurrence, là, je vais parler plutôt de c'est pas la banque que je reprends, c'est la banque du retail, la banque des particuliers. Tous nos conseillers sont formés à justement détecter dans les couples des moments où il y a une espèce d'emprise financière de l'un par rapport à l'autre, et ça, on se doit d'accompagner et de lutter contre. Là, on a un vrai rôle, entre guillemets, encore en 2025 dans cet aspect-là des choses.
Oui, bah écoutez, merci de le préciser, parce que ça fait aussi partie des thèmes que nous traitons chez IDFM, en tout cas dans l'économie en direct, cette indépendance financière des femmes. Et c'est vrai que 1965, c'est pas une date si loin que ça, paraît incroyable. C'est vrai. C'est une date que j'avais retenue également sur cette avoir un chéquier.
Exactement. Et on avait ressorti les pubs, il y avait le pub de BNP Paribas avec première femme avec son chéquier. Enfin, bon,
et alors, vous savez, je crois même que c'est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à cette date-là qu'on a accepté que des femmes mettent un pantalon pour aller travailler. Alors, vous voyez, ça va très loin. Bon, merci Alexandre pour ce témoignage. Guillaume et Axel, alors, quelles sont les conditions pour participer au Paris Vexin Business Club?
Les conditions, alors, pour être visiteur.
Si des auditrices, auditeurs ont envie de vous rejoindre.
Ouais, bah, les auditrices, je vous invite à venir nous voir. Ouais, particulièrement, parce qu'en fait, pour rester un peu sur le sujet, il y en a beaucoup des femmes chefs d'entreprise et on s'en rend compte aussi. Et des fois, j'ai l'impression, alors c'est difficile là parce qu'on est trois bonhommes à parler de femmes chefs d'entreprise.
Mais vous êtes les mieux placés pour en parler.
Peut-être. Moi, j'ai la chance et je connais bien une femme chef d'entreprise vu que
c'est la vôtre.
C'est la mienne et elle n'est pas forcément concernée parce que je vais dire, mais les femmes sont peut-être plus sensibles à un certain syndrome de l'imposteur qui est courant chez tous les chefs d'entreprise, parce que on a l'impression d'avoir besoin de dégager une image de confiance en soi et de réussite. Et bah voilà, moi je suis un grand bonhomme d'1m90, large d'épaule. Quand j'arrive dans un groupe, oui, on me fait de la place et j'ai une voix grave. Alors on a tendance à m'écouter plus facilement. Quand on est une femme, c'est peut-être plus difficile. Pour autant, c'est pas pour autant que ce qu'elle a à dire est moins intéressant. Au contraire. Du coup, on essaye de faire un maximum de place pour chaque membre, hein, évidemment, que ce soit homme ou femme, que chacun puisse trouver sa place dans le club et que chacun ait la parole et que personne ne soit jamais isolé dans un coin. Mais pour autant, c'est vrai que là, on parlait des intervenants. Sur nos membres, on n'est pas à la parité non plus, mais en fait,
on essaye. Oui, c'est ça. Vous n'y êtes pas opposé, en tout cas.
Absolument pas. Au contraire, les conditions pour participer
en tant
que
vous n'êtes pas contre, vous êtes tout contre. C'est ça la formule. Vous n'êtes pas contre, vous êtes tout contre les femmes.
je me permettrai pas. Les conditions en tant que visiteur, il y en a pas, si ce n'est d'être c'est réservé aux professionnels. Donc c'est pas pour voilà, même si c'est un invité qui est très intéressant, on reste quand même un réseau d'affaires et un réseau professionnel. Avec un poste où on a une possibilité de décision. Donc de vente, de prise de commande, particulièrement. Donc c'est pour ça qu'on parle de chef d'entreprise, de décideur. Après, au niveau des métiers, en tant que visiteur, c'est ouvert à tout. En tant que membre, si on veut, parce qu'on peut venir en tant que visiteur qu'une seule fois, si on veut. C'est encore une fois, c'est pour éviter les gens qui viennent là que pour distribuer leurs cartes. Sinon, ça, l'ambiance club et l'ambiance réseau et la confiance dont on parlait ne fonctionne pas. En tant que membre, il va y avoir deux restrictions. La première, c'est de boire un café ou de faire un déjeuner avec Guillaume, Clara et moi. Oui. En fait, tout simplement pour se rencontrer, pour voir si on est...
Ça se passe bien.
Ouais, normalement ça se passe pas trop mal.
Sous la gorge.
Il faut une grosse résistance quand même.
Mais globalement, si on aimait... Très sincèrement, pour l'instant, ça nous est pas arrivé de rejeter quelqu'un suite à ce genre de rendez-vous, parce que si on aimait la volonté d'adhérer au club, c'est que globalement, on a vu le genre de personne qu'on était et ce qu'on propose, donc généralement, ça colle. Mais n'empêche, ça nous paraît essentiel et très important. Ensuite, au niveau métier, en fait, on respecte une règle de non-concurrence, c'est-à-dire que quand on a un métier, il y aura pas de doublon, on n'aura pas de concurrent au sein du club.
Oui, ça, vous respectez ce côté-là.
On respecte ça, en tout cas, tous les 40 membres. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à 40 membres, on est un peu plus de 20. Mais maintenant, si on était 40 membres, il pourrait y avoir un deuxième banquier, par exemple. Mais en fait, on essaye de rentrer dans une granularité et une finesse un peu plus poussée, parce qu'on peut se rendre compte que sur des métiers qui, sur le papier, sont les mêmes, si on regarde ce qu'ils font en vrai, en fait, c'est pas forcément la même chose. C'est par exemple, on a plusieurs personnes qui travaillent dans le bâtiment. Au sein du club, on pourrait dire, bah voilà, t'es une entreprise du BTP. Il n'y a pas d'autres entreprises du BTP.
C'est très vaste.
Voilà. Et en plus, dans votre catalogue, vous proposez visiblement la même chose, mais on se rend compte qu'en fait, il y en a un des deux, il sous-traite toute une partie de son activité, et l'autre, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, là, on va pas dire, bah, du coup, pour nous, ça passe, donc vous adhérez les deux. Ce qu'on va faire, c'est... A priori, pour nous, ça passe, mais maintenant, vous allez vous rencontrer et discuter ensemble, parce que si c'est pour qu'il y ait de la guéguerre interne au sein du club, pareil, ça c'est bon pour personne.
Okay.
Donc voilà les conditions, mais encore une fois, en tant que visiteur, ça c'est la première étape, venez voir, venez à un déjeuner, venez vous inscrire.
Les conditions, alors très vite, Axel, les conditions financières?
Les conditions financières, elles sont simples. Pour les visiteurs, le déjeuner, c'est 120 euros TTC, boissons comprises, hein, tout est compris, entrée, plat, dessert, mini-hardis, café, le vin, le champagne, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
C'est déjà pas mal.
Ouais,
c'est déjà
l'invité pas mal, de choix.
Et l'invité de choix, évidemment.
C'est ça, oui.
Pour les membres, il va y avoir une adhésion annuelle qui est à 1800 euros hors taxes, plus le prix des déjeuners que cette fois on paye moins cher, qu'on paye 80 euros hors taxes. C'est un déjeuner par mois, toute l'année, sauf en juillet-août, où on prend où on prend nos vacances.
On rattrape nos retards professionnels.
On rattrape nos retards professionnels sur nos autres activités. Et le petit plus aussi, ce qui est rarement proposé dans ce genre d'événement, on est sur des déjeuners, donc il y a une grande partie du déjeuner qui se passe debout, l'apéritif, le dessert, pour permettre de rencontrer tout le monde,
de circuler,
d'échanger avec tout le monde et de pouvoir discuter. Mais ensuite, la partie déjeuner est assise à table. Et là, quand vous êtes inscrit, en fait, à quelques jours avant l'événement, vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de faire un vœu de placement. En gros, vous allez avoir la liste des gens qui vont être au déjeuner avec vous, et vous allez pouvoir faire des vœux avec qui vous avez envie d'être assis à table. Vous faites 3 vœux, et nous, on va se débrouiller. Pendant le week-end, on va se casser la tête, on va faire un petit algo.
Pour faire un plan de table.
Pour faire un plan de table qui, franchement...
très, très difficile, plans de table.
En fait, en fonction des vœux des gens, ça peut être très simple ou très compliqué. Ah oui. Mais vous allez avoir au moins un de vos vœux qui va être réalisé. Et quand vous êtes...
Mais ils ne veulent pas tous être à côté de l'invité d'honneur.
Bah, c'est variable. C'est variable. En fait, par rapport à l'invité d'honneur, il y a souvent beaucoup de gens qui demandent à l'être. Mais ensuite, voilà, on est tous des professionnels. Et donc, la plupart des gens vont choisir des gens qu'ils ont envie de rencontrer d'un point de vue business.
Ok, merci beaucoup Axel. Alors, une dernière question, très rapidement Guillaume, parce que je voudrais vraiment donner la parole à Alexandre. Vous nous rappelez la date du prochain déjeuner?
Alors, le prochain déjeuner, c'est le 13 janvier au Golf d'Ablège. Voilà, donc juste au nord de Cergy, là, quand vous montez la 15, première sortie Melan-les-Mureaux, vous allez de l'autre côté et vous y êtes. Voilà, et c'est l'apéritif commence à 11h30, ça se termine à 14h30. Alors tout ça, c'est la zone très officielle. Donc si vous avez des rendez-vous avant, si vous voulez rester après 14h30, vous pouvez. Mais si vous avez des rendez-vous juste après, il n'y a absolument aucun problème. À 14h30, c'est terminé. Il s'avère qu'il y a souvent des gens qui restent après parce qu'ils ont plaisir. Oui, et parfois même nos intervenants qui sont très contents de poursuivre en tête à tête. Mais voilà, le créneau, c'est vraiment 11h30, 14h30.
Avec donc Audrey Renard, hein, responsable du pôle judiciaire, criminalité.
Exactement, et je vais déjeuner avec elle demain d'ailleurs pour affiner quelques sujets.
Très bien.
Encore un tout petit mot de précision pour dire que par contre c'est inscription obligatoire, vous pouvez pas venir comme ça, faut vous inscrire. Pour nous trouver, vous cherchez Paris Vexin Business Club sur internet ou sur LinkedIn, vous nous trouverez facilement, et soit vous nous contactez directement pour qu'on vous explique comment ça marche, soit vous pouvez vous inscrire sur notre site.
Super. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges riches
en
enseignements, et encore bravo pour cet accélérateur de réussite qu'est le PVBC. Merci Guillaume.
Merci
Axel.
Beaucoup.
Allez, on vous laisse profiter encore de quelques instants de musique avec cette fois le duo Elton John et France Gall, Donner pour donner.
Silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose.
Je te donne mes espoirs cachés. Pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Pas la peine de vivre enfermé. Pas la peine de rester couché.
Non, c'est pas la peine.
Je
pied dedans sans rien demander.
La vie c'est déjà si compliqué.
Je te donne mes sourires, mon cœur. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles.
La vie, c'est déjà si difficile.
Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Oh, donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer.
Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
IDFM 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir les cofondateurs du Paris Vexin Business Club, Axel Duchemin et Guillaume Dollet, et qui sont venus avec Alexandre de Lamarzelle, directeur du centre d'affaires PME du Val d'Oise BNP Paribas. Alors Alexandre, focus sur vous à présent.
Merci.
Déjà, peut-être je vous laisse vous présenter, Alexandre.
Avec joie, parce que je viens comme banquier, mais je suis quand même un banquier très atypique. Peut-être juste en quelques mots, d'abord le petit clin d'œil avec le Val d'Oise. J'ai commencé ma vie professionnelle, enfin ma vie d'étudiant à Cergy-Pontoise, que j'ai fait l'ESSEC.
D'accord.
Ça remonte à il y a 30 ans.
Ouais.
Et puis ensuite, j'ai eu une vie professionnelle assez variée. J'ai commencé par être officier de marine sur un bateau qui s'appelait le Bougainville, qui ravitaillait les sites d'essais nucléaires en Polynésie française. Donc, ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mmh. Ensuite, j'ai eu une grande tranche de vie pendant 15 ans où j'ai fait du marketing et des ventes dans une multinationale américaine qui s'appelle Procter & Gamble. Donc j'ai fait ça en France, mais aussi pas mal en Russie. J'ai introduit pour la marque Ariel à Moscou, enfin en Russie, en Ukraine, en Biélorussie. Voilà, donc ça c'est une grande tranche de ma vie. Et puis ensuite, en sortant de Procter, je suis devenu dirigeant d'entreprise. Donc ça c'est peut-être la partie importante pour mon boulot actuel.
Que vous êtes vraiment atypique pour
voilà,
un banquier.
J'ai dirigé 2 ETI, une dans l'époque de l'e-commerce flamboyant. J'ai dirigé pendant 4 ans Rue du Commerce, une jolie boîte qui était à Saint-Ouen-l'Aumône, un des précurseurs du e-commerce en France. Et puis ensuite j'ai dirigé Photobox, une entreprise française qui était née à Sartrouville, puis qui est devenue le leader européen de ces albums photos personnalisés. Donc voilà, donc j'ai eu vraiment une vie de dirigeant pendant 7 ans, et c'est à l'issue de cette vie de dirigeant que je suis rentré chez BNP Paribas, au début avec une casquette très particulière qui correspondait à mon parcours professionnel, qui était d'accompagner BNP Paribas dans sa transformation digitale. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, où j'ai
profondément œuvré avec d'autres évidemment hein, sur la transformation digitale de ce groupe, en particulier la banque commerciale pour les particuliers. Voilà. Et puis à force de transformer la banque, bah, c'est un petit peu elle qui m'a transformé. Et je me suis dit bah tiens en fait je suis dans une banque. Il y a un moment il faut peut-être devenir banquier. Voilà. Et quitte à être au bon endroit, bah, c'était être banquier sur une typologie de clientèle que je connaissais pour l'avoir été avant, qui était banquier des PME, des dirigeants de PME. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a trois mois, je suis arrivé et j'ai pris la direction du centre d'affaires Val-d'Oise, vraiment mais centré sur les PME. Donc le j'ai toute une équipe, hein. Je suis un peu un entrepreneur aussi parce qu'en fait je suis dans une BNP Paribas qui est une gigantesque banque, une gigantesque maison et ça donne toute une puissance de feu, mais au quotidien, je suis un petit entrepreneur à Cergy-Pontoise avec une équipe de 15 personnes et dont la mission, vraiment la mission du centre d'affaires PME, c'est d'accompagner les dirigeants de PME dans le Val-d'Oise et d'accompagner ce tissu économique. Et on en accompagne environ, juste pour donner un ordre de grandeur, on en accompagne environ 1000. Voilà, on a 1000 clients, 1000 PME qui sont clients de notre centre d'affaires PME BNP Paribas dans le Val-d'Oise. Voilà, et c'est vraiment une joie parce que c'est enfin je peut-être vous laisser regarder, mais en tout cas grande joie d'être au contact de ces gens qui donnent une énergie de fou.
Ouais. Un fou, oui. Avec en plus peut-être ce plus qui vous vous êtes chef d'entreprise, mais vous n'avez pas toutes les charges du chef d'entreprise, c'est-à-dire vous n'avez pas l'objectif à réaliser de chiffre d'affaires et puis les contraintes de charges et tout ça.
Alors si,
vous avez déjà objectif vis-à-vis de la banque BNP.
Ah oui, moi je dois réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ça s'appelle du PNB dans la banque, j'ai mon chiffre. J'ai 15 salariés à gérer. On vient de déménager, Sergi, donc on a des coûts de structure. Enfin. Évidemment, pour avoir été avant dirigeant,
c'est ce que je veux dire.
Je ne porte pas tout le poids du jour et on est énormément aidé quand on est dans une grande entreprise. Évidemment, quand on est une boîte CAC 40, on a beaucoup de soutien, c'est sûr. Mais néanmoins, au quotidien, on a quand même quelques éléments qui vont être.
Ça n'avait pas le droit à l'erreur.
Voilà. Si, ça l'erreur, c'est toujours. Mais...
Alors, Alexandre, quels sont les secteurs aujourd'hui? Parce que, on traverse, on va pas se cacher, hein, on traverse une période économique compliquée depuis plusieurs années maintenant. Quels sont les secteurs qui résistent le mieux aujourd'hui dans le Val d'Oise?
Ouais. Alors, vous avez raison de commencer par ça. C'est effectivement, l'ambiance est pas euphorique. Mais ce qu'on peut dire, c'est, le Val d'Oise résiste, on va dire. On pourrait mettre France Gall après, mais c'est réel. Donc peut-être quelques chiffres pour avoir ça en tête. C'est sur les 12 derniers mois glissants, le chiffre d'affaires consolidé des PME du Val d'Oise a reculé de 1,5%. Donc oui, il y a une difficulté, mais dans cette difficulté, on peut dire qu'il y a d'énormes atouts. On voit d'abord que l'emploi tient, le chômage est relativement stable. Il a augmenté de 0,1 point dans le Val d'Oise. Il doit être à 8,2, je crois. Les créations d'entreprises, on a eu, sur les 12 derniers mois, 44 000 créations d'entreprises dans le Val d'Oise. On est sur un point haut qui est stable depuis 3 ans, mais sur les 10 dernières années, on voit que c'est plutôt dans les très très hauts, dans les très belles années. Hein. Même si ça, il y a une petite érosion. Mais quand même, ça tient fort. Un autre élément pour moi très positif du Val d'Oise, c'est le nombre de mètres carrés qui est autorisé à la construction. Ça, c'est hyper important parce que on est en Île-de-France, il y a forcément de la tension l'espace. On a de l'espace dans le Val d'Oise et on voit qu'en termes d'autorisation de mètres carrés, là aussi, on voit une augmentation. Donc ça c'est un élément extrêmement positif. Et alors, maintenant, pour revenir précisément à votre question, où est-ce que ça résiste le mieux, voire même où est-ce qu'il y a de la dynamique. Alors, il y a de la dynamique. Donc, d'abord peut-être la typologie du Val d'Oise, c'est un département par rapport à ses petits cousins franciliens, c'est un département particulièrement industriel. Moi, ça a été une de mes très belles découvertes en arrivant, de voir le nombre de boîtes industrielles, françaises, industrielles, locales. Pour certaines d'entre elles qui exportent dans le monde entier. Donc on a un tissu industriel. Ça c'est quand même chouette. Il y a 44 000 emplois dans l'industrie dans le Val d'Oise aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même...
Oui, c'est important de le souligner parce qu'on parle de la souveraineté, hein, justement, industrielle.
Exactement. Et alors,
qui encore, a été longtemps remise en cause.
Hein. Voilà. Ouais. Ben, en tout cas, le Val d'Oise est particulièrement en pointe sur le sujet de l'industrie. Voilà. Et après, à l'intérieur de l'industrie, si on veut noter peut-être deux, trois éléments qui sont clés, ben, il y a le BTP qui est clé, on en a parlé tout à l'heure. Et le BTP, il a un dynamisme qui est très, très fortement le sous-jacent du dynamisme du BTP, c'est la transition énergétique. Donc là, on est sur une vague de fond. Alors, évidemment, il y a des
problèmes conjoncturels. Avec en ce moment quand même une période compliquée.
Oui, mais bien sûr, et il y a des enjeux politiques derrière. Mais la vague de fond, elle est là, et l'ensemble des acteurs, que ce soit particuliers ou professionnels, sont bien conscients que le coût de l'énergie va pas aller en s'améliorant. Mmh. Donc il y a besoin de faire cette transition. Donc ça, c'est quand même un sous-jacent qui est fort et qui reste. Le deuxième élément industriel que j'ai envie de noter, c'est la défense. Alors oui. C'est peut-être une conséquence triste, oui, mais c'est une conséquence réelle. Il y a un impact réel. On a la chance dans le Val d'Oise d'avoir des présences de grandes entreprises, Airbus, Thales, Safran, et derrière ça draine tout un écosystème en deuxième et en sous-traitants de premier ou de deuxième rang qui sont le tissu économique de PME. Donc moi je vois dans nos clients, on a plusieurs entreprises, mais enfin c'est significatif, qui sont acteurs de la défense, qui l'une va faire une petite pièce du Rafale, qui l'autre va faire...
Il y a pas mal de sous-traitants, oui.
Et ça, c'est très dynamique, très très dynamique, et il y a une vraie volonté politique d'accompagner, et une vraie volonté pour nous, BNP Paribas, de la banque, d'accompagner ce secteur. Voilà. Et peut-être dernier secteur que je veux peut-être juste mettre en lumière, le secteur pharmaceutique, qui reste dynamique. Il y a aussi une dynamique, évidemment, de qualité des soins en France. Il y a le vieillissement de la population. Donc, là, il y a des sous-jacents, des moteurs qui sont importants pour ces secteurs-là et qui continuent d'œuvrer positivement.
Voilà. Oui, et puis, je pense que la Covid a donné un accélérateur à ce secteur, probablement.
Complètement. Voilà. Et dans poche de résistance, grande potentialité du secteur, un grand nombre d'acteurs et de dirigeants avec d'un dynamisme très fort, et un département qui tient encore. Je donne juste peut-être le chiffre des défaillances d'entreprises, qui est toujours pour nous, nous banquiers, c'est quelque chose qu'on regarde, hein, évidemment, très très fortement, très précisément. Sur les 12 mois glissants, il y a 1200 défaillances d'entreprises dans le Val d'Oise. Juste pour donner c'est un chiffre qui est à peu près stable. Donc il n'y a pas de... En légère augmentation, mais il n'y a pas de drame, entre guillemets. Voilà,
importance confondue. Je veux dire, ça va de l'auto-entrepreneur à la grosse PME.
Oui, tout à fait. À fait. Même si moi, mon regard, ma focale, c'est vraiment les PME.
Oui.
Entre 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 75-100 millions. Quoi. C'est ça ma focale. Hein, voilà.
Merci Alexandre pour ce panorama. Alors, moi, dans mon émission, je reçois beaucoup de chefs d'entreprise, vous l'avez compris.
Oui.
Les banques aujourd'hui...
Faut me présenter.
Avec plaisir. Les banques, maintenant se diversifient, hein, dans plusieurs produits. Ce qui revient souvent, c'est les problèmes de trésorerie. Donc, comment BNP Paribas le gère.
Ouais. Alors, effectivement, l'enjeu de trésorerie d'une entreprise, peut-être juste pour employer des mots très très simples, une entreprise, on a souvent en tête, une entreprise, ça dépense pour construire un produit ou un service, et puis ça gagne, de l'autre côté, des revenus en vendant ses produits ou ses services.
Pour des retours sur investissement.
Voilà. Et les revenus moins les dépenses font le résultat net à la fin, sur lequel il y a éventuellement un peu d'impôts, etc. Mais ça fait le bénéfice. Ok, voilà. Ça, c'est assez simple. Et la plupart des gens, en fait, le commun des mortels, souvent se dit, une entreprise qui a du bénéfice, elle va bien. Mais le banquier et l'entrepreneur, ils voient la chose de façon un tout petit peu plus subtile, qui est que malheureusement, la synchronisation des choses n'est pas toujours parfaite. Et souvent, on commence par dépenser et on gagne de l'argent dans un deuxième temps. Et parfois, ce deuxième temps, il arrive longtemps après, parce que notre client peut payer à 30 jours, 60 jours, 90 jours, voire ne jamais payer. Bon, donc ça crée un décalage, et c'est là où la trésorerie devient un souci. Et on dit souvent, les banquiers, c'est cash is king. Donc quand on regarde une entreprise, on regarde ses comptes, on regarde ses résultats, mais on regarde aussi sa trésorerie. Parce que quand il n'y a plus de trésorerie, c'est un peu comme l'essence dans la voiture. S'il n'y a plus de trésorerie, l'entreprise, elle va au tapis. Et même si elle est rentable,
Mais il y a un moment, si vous me payez dans un an, c'est gentil, mais en attendant, j'ai besoin de payer mes fournisseurs. Et ça, je vais juste peut-être donner un chiffre de la Banque de France, parce que moi, quand je l'ai découvert, ce chiffre, il m'a choqué. Un chiffre de la Banque de France, donc c'est un chiffre de décembre 2025, donc très récent, qui dit que 50% des grandes entreprises payent en retard, à plus de 60 jours. En retard, c'est à plus de 60 jours. Mmh. 50% des grandes entreprises, plus de 50% des grandes entreprises payent à plus de 60 jours. Alors que seulement 25% des PME payent en retard à plus de 60 jours. Ça veut dire qu'entre guillemets, sur l'aspect trésorerie, la PME est plus désavantagée que la grande entreprise. Parce que souvent, la grande entreprise, elle est un peu maître du jeu.
On est bien d'accord.
Donc, le patron de PME, il a du mal à mettre bien la pression. Voilà. Donc, ça, c'est un enjeu critique. Donc, vous avez raison de commencer par ça, parce que c'est souvent un enjeu majeur qui peut créer des difficultés majeures pour l'entrepreneur. Le banquier, comment est-ce qu'il accompagne ça? Comment est-ce que nous, au centre d'affaires BNP Paribas, on accompagne ça? Ben, on accompagne ça en prévenant. Ensuite, on peut le faire avec des solutions qu'on appelle l'affacturage. Souvent, l'affacturage dans la tête des gens, c'est quelque chose pour les entreprises en difficulté. Mais non, aujourd'hui, c'est devenu un produit
parfois
commun.
Ça coûte cher aussi, l'affacturage.
Oui, mais la trésorerie, elle a pas de prix, entre guillemets. Enfin, entre ne pas pouvoir payer son fournisseur et perdre un peu de marge, parce qu'on a un bon poste
oui,
client et qu'on est capable de la facturer. Voilà. Donc ça, c'est le type de service qu'on peut offrir. On peut aussi offrir dans la structuration en amont le fait de bien dimensionner le haut de bilan de l'entreprise. C'est-à-dire si elle est bien capitalisée au démarrage, si elle a un trésor de guerre suffisant pour finalement financer l'amorçage de son entreprise, son fameux BFR, son besoin en fonds de roulement, ça c'est
oui,
dans
notre
rôle. Oui,
vous parlez d'immobilier, enfin de des stocks.
Là, vous lancez sur une autre typologie de service. Souvent, un entrepreneur, il a par exemple des locaux. On peut refinancer ses locaux. Au lieu qu'il soit propriétaire et que ça soit de l'argent dormant, il peut faire un crédit bail. Et là, il va régénérer de la trésorerie d'une certaine manière. Ce qu'on peut aussi faire, c'est, on va prendre par exemple une entreprise qui a une grande force commerciale, qui a une flotte d'automobiles. Mmh. Ben, deux choix pour l'entrepreneur. Soit il achète des voitures, c'est-à-dire qu'il soit sortir du cash et puis il immobilise d'une certaine manière une grosse somme. Ou bien autre solution, il prend une solution type Arval, ça c'est la solution de BNP Paribas, mais les autres banques en ont évidemment, de leasing automobile. Voilà, c'est une autre façon en fait d'alléger la trésorerie et d'alléger les flux au quotidien et de se concentrer sur son vrai métier. Voilà, je vous laisse peut-être.
Merci. Ben non, mais je crois que vous êtes. On sent que vous êtes passionné. Et ça, c'est. J'adore.
C'est minimum.
et voilà. Je sais que vous vouliez parler. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être que vous reviendrez, Alexandre.
Avec joie.
Bon, si bah, écoutez, on va le solutionner comme ça. Mais oui, parce que voilà, vous vouliez nous parler de. Merci en tout cas pour cette démonstration au niveau de la trésorerie. Donc peut-être nous dire. Nous citer un petit peu les produits dont vous vous occupez aussi dans votre mission.
Ouais, j'aime pas arriver avec les produits. Je vais plutôt partir de parce que je l'ai été dirigeant. Donc c'est quoi les enjeux des dirigeants auxquels on peut répondre. Et après
D'accord.
les produits, les services, ça vient derrière entre guillemets. Mm-hmm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une très grande maison, donc l'offre de produits et de services, elle est extrêmement large. Mais pour moi, ce qui est important, c'est les enjeux du dirigeant. Donc, on a parlé de l'enjeu de la trésorerie. Moi, je vais parler d'un deuxième enjeu. Quand l'économie en France va mal, bah, l'enjeu du dirigeant, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des relais de croissance. Comment il fait? Mais il peut aller à l'international. Les entreprises qui sont orientées à l'international, elles vont mieux. Bon, ben.
Oui, encore faut-il avoir un produit qui accepte
oui,
l'international.
Bien sûr, mais bien sûr. Donc, il y a des critères, évidemment, tout le monde ne peut pas aller à l'international. Mm-hmm. Mais, en tout cas, ceux qui ont le désir d'y aller et ceux qui veulent être accompagnés, typiquement, une boîte comme BNP Paribas, on est présent partout dans le monde. On a des relais de spécialistes. Vous voulez un fiscaliste au Portugal? On vous le trouve. On a un service qui s'appelle Trade Development. On va accompagner l'entrepreneur dans son développement international. Voilà. Donc, ça, c'est un enjeu pour partir plus loin. Donc, enjeu de trésorerie, enjeu de s'orienter à l'international. Si on veut aussi un enjeu pour se développer, l'entrepreneur, il a besoin qu'on l'aide à financer sa croissance. Ça peut être sa croissance externe, racheter une autre boîte. Ça, on peut le faire. Ou bien en lui prêtant de l'argent. Ça, c'est le métier traditionnel
oui,
du banquier, hein, voilà, des bancaires. Mais on peut aussi le faire, ça c'est moins connu, on peut aussi le faire en prenant une part dans le capital de l'entreprise. BNP Paribas peut aussi et ça on le propose à nos dirigeants et c'est très 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 apprécié. Entre guillemets, le mot c'est fonds d'investissement, donc on a le fonds d'investissement en interne pour les PME de BNP Paribas, il s'appelle BNP Développement, BNP Dev. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va voir un entrepreneur, on lui dit, ben, nous, on vous propose avec BNP Dev de rentrer à votre capital de façon minoritaire. Donc ça solidifie.
Ça n'effraie pas.
Ça n'effraie pas parce que justement, c'est un fonds qui est adossé à une grande banque. C'est un fonds qui va rester minoritaire. C'est un fonds qui est là pour faire plusieurs tours. Donc c'est pas un fonds qui, au bout de cinq, qui va pressuriser l'entrepreneur pendant cinq ans. Et au bout de cinq ans, coûte que coûte, va vouloir sortir avec une rentabilité très forte. C'est un fonds qui est là pour longtemps. Donc on est très sélectif sur les entreprises qu'on accompagne. Mais en revanche, celles qu'on accompagne, on les accompagne de façon minoritaire, pour les aider à faire de la croissance externe et de façon relativement peu interventionniste. Donc ça, en général, c'est assez apprécié des dirigeants. Donc ça peut venir nourrir, aider et accompagner le dirigeant dans son besoin de se développer et de croissance externe. Et puis peut-être si j'ai encore le temps, deux autres enjeux qui me tiennent à cœur. Un enjeu patrimonial. Parce qu'en fait, on l'a vu cette année, malheureusement, moi je trouve que, c'est peut-être un cri du cœur, mais c'est, on a l'impression que tous les dirigeants, c'est des gens richissimes, qui ont des yachts et des, un truc incroyable, et qui ne sont là que pour payer les impôts. Mais moi, les dirigeants que je rencontre au quotidien, c'est vraiment pas l'image que j'en ai, quoi, loin s'en faut. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui bossent, ça c'est sûr, plus qu'il n'en faut. Mais surtout, d'un point de vue patrimonial, c'est des gens souvent, tout leur patrimoine, est dans l'entreprise. Et tant qu'ils n'ont pas vendu leur entreprise, ce qui arrivera peut-être à la fin de leur vie, ils ne vivent pas
richement.
Pour certains d'entre eux, ils n'ont même pas encore fait ce qu'on pourrait considérer le béaba du patrimoine, qui est d'avoir sa résidence principale ou éventuellement de se faire un peu plaisir. Donc il y a un enjeu patrimonial du dirigeant, issu corps et âme dans son entreprise, mais il a aussi une vie personnelle, il a aussi peut-être des désirs. Et là, un banquier comme BNP Paribas, comme notre centre d'affaires. Dans notre centre d'affaires, en fait, on est 15, mais il y a aussi des banquiers privés dedans qui ont cette spécificité du banquier privé qui accompagne le dirigeant qui n'a pas forcément beaucoup d'épargne financière. Et souvent, le banquier privé, on va chez un banquier privé quand on a de l'épargne financière. Mais le dirigeant d'entreprise, il n'en a pas forcément. Lui, son épargne, elle est dans sa boîte. Et donc, pour le coup, il a un enjeu, lui, peut-être d'emprunt pour sa résidence principale. Et c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc ça, c'est un accompagnement très dédié qui, souvent, fait mouche sur le dirigeant, qui a en plus des contraintes particulières, fiscales, etc. Voilà. Et puis, dernier petit enjeu aussi, qui peut ouvrir sur des champs de produits et de services et sur des sujets d'accompagnement, c'est les sujets de risque. Le dirigeant, c'est une population qui est très exposée au risque. Il est exposé d'abord au risque pour son entreprise. Je vais en prendre un à titre d'exemple, peut-être le plus saillant aujourd'hui, qui fait toujours mouche quand on en parle, c'est le risque de cybersécurité. Oui. Le risque de cybersécurité, d'ailleurs, c'est plus un risque, c'est une certitude. Oui, toutes les boîtes se font attaquer d'un point de vue cybersécurité.
C'est ce qu'on dit. On ne sait pas comment on va se faire attaquer, mais c'est quand.
Donc ça, c'est une évidence. Et donc, nous, en tant que banquiers qui accompagnons des dirigeants, on est dans une taille de PME, donc ils ont pas forcément un département informatique avec un service de cybersécurité. C'est pas BNP Paribas. Donc, on est hyper conscient qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Donc là, on a, BNP Paribas, on fait appel, nous, à des startups. Alors, en l'occurrence, là, c'est Stoic. Une entreprise qui va venir auditer, qui va venir former, qui va venir résoudre la crise, qui va venir accompagner dans le plan de communication si jamais il y a un souci, et qui va surtout regarder le problème, pas simplement dans son problème technique, technologique, parce que souvent la technologie elle est robuste, mais c'est souvent le problème humain, c'est-à-dire que le hacker, il joue sur la faille humaine. On a tous l'idée de la fameuse le phishing par le dirigeant entre le 24 décembre et le 31 décembre, qui est le classique. Donc un sujet, un souci du dirigeant en termes de sécurité de son entreprise, on va l'accompagner. Et puis, dernier point, toujours sur cette idée d'accompagner le dirigeant dans les risques qu'il prend. Et je veux finir par là, parce que ça, c'est peut-être une touche un peu plus personnelle. Le dirigeant, c'est un homme souvent seul, ou une femme, c'est une personne souvent seule sur laquelle repose un poids.
Une charge mentale énorme.
Oui, et le poids de son entreprise. Mmh. Donc, si cet homme ou cette femme est défaillante, maladie, handicap, mort, ça peut arriver, c'est l'entreprise qui s'écroule. C'est la famille autour qui perd pied. Donc il y a aussi un enjeu, et il n'a pas le système de prévoyance que la grande boîte du CAC 40 donne aux dirigeants salariés.
Bien sûr, ouais.
Lui, il est tout seul, et s'il ne s'en occupe pas, et souvent, comme c'est des gens extrêmement courageux, extrêmement audacieux, voilà. Ben souvent, il y a peut-être le syndrome assez classique de se prendre un peu pour un surhomme ou une surfemme. Et donc, de ne pas penser à ça. Et ça, c'est absolument essentiel pour eux, pour leur famille et pour l'entreprise. On oublie aussi pour l'entreprise. S'ils disparaissent, l'entreprise, elle va au tapis. Quoi.
Tout disparaît, c'est
voilà.
Clair.
Et donc là, il y a un enjeu d'assurance. Il y a un enjeu de prévoyance. Voilà. Et donc, chez BNP Paribas, en l'occurrence, nous, on a Cardiff derrière, donc on a une grande maison. Donc voilà, donc c'est pour dire accompagnement local de 1000 dirigeants dans le Val d'Oise, mais derrière, compréhension de leurs besoins, de leurs enjeux. Et ensuite seulement, on va ouvrir la bonne boîte dans la maison pour venir les aider. Mais chacun est unique.
Il
donc
faut,
on va,
il faut les, voilà. Les découvrir.
C'est
et
du coup
humain.
C'est pour ça que j'ai pas voulu répondre à votre question sur c'est quoi notre plus de produits.
Non, mais voilà, qui serait ma dosasse. Puisque vous devez revenir, on développe pas.
Ah, bah avec joie.
Merci infiniment, Alexandre. J'adore derrière. Votre enthousiasme. Et puis, on sent en effet que derrière, vous décoiffez un peu, hein, je trouve, en tant que banquier par rapport à. Au stéréotype qu'on a du banquier habituellement.
Tant mieux.
Merci infiniment, puis merci.
Si j'ai pu faire ça.
De vous être prêté à cet exercice et puis pour votre éclairage sur toute la vision stratégique de BNP Paribas. Merci infiniment.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Voilà, l'émission touche à sa fin, donc la tradition veut que je demande un petit mot de conclusion avant de nous séparer, donc il nous reste plus beaucoup de temps, donc un mot de conclusion, Axel, avant de nous quitter.
Eh bien déjà, j'aimerais souhaiter une très belle année à tous ceux qui nous écoutent, et pour reboucler sur ce qu'on disait au début, on parlait de confiance, et c'est vraiment la confiance en l'avenir, la confiance en ce qui nous attend. Effectivement, elle est bien secouée. On voit tous les jours ce qui se passe dans le monde et des choses qu'on s'imaginait pas. On parlait de ce qui s'est passé au Venezuela avec Maduro et les États-Unis. Voilà, on s'y attendait pas, mais ça nous tombe dessus. C'est difficile d'avoir une vision à long terme quand on est chef d'entreprise et qu'on justement l'avenir semble incertain. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est ce qu'on va vous proposer au Paris Vexin Business Club, c'est de rencontrer des gens de confiance et retrouver un peu de sérénité.
Merci Axel. Alexandre.
Bah, mes meilleurs voeux 2026 pour tous les dirigeants d'entreprise. Voilà, vraiment ces coups de cœur et coups de chapeau à ces hommes et ces femmes qui se lèvent le matin et qui font le succès notamment du Val d'Oise, mais de la France en général. Merci à eux.
Merci Alexandre. Guillaume, le mot de la fin.
Moi aussi, les meilleurs vœux pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'être heureux, ont besoin d'avancer, ont besoin de réussir. Et je souhaite que cette année soit une année où ils ont la santé pour assumer le flot ininterrompu de bonnes nouvelles qui vont débarquer. Et dans une période comme aujourd'hui où on se méfie un peu de tout et qu'on l'incertitude est vraiment présente partout, il y a une chose dont on est certain, c'est soi-même. Donc gardez tous confiance en vous et avancez. Et nous, au Paris Vexin Business Club, on est là pour vous aider à sortir du syndrome de l'imposteur et de sortir de votre zone de confort et d'avancer avec joie, énergie et enthousiasme, parce que sinon, il n'y a pas de sinon, c'est avec ça.
Super, écoutez, trois conclusions très positives, merci à vous. Merci, moi je conclue qu'au terme de ces interviews, on peut dire que le Val d'Oise reste un territoire résilient avec des cartes majeures à jouer. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Merci Francky pour la technique. Merci Margot d'avoir assisté à l'émission. Merci à nos auditrices auditeurs d'avoir suivi cette émission. Et puis, si cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage sur vos réseaux. Retrouvez son podcast sur idfm98.fr. À mardi pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Mais restez connectés sur IDFM Radio. Nos émissions se suivent et ne se ressemblent pas. Bonne journée et bon week-end.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.